sur le pont des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Peinture, photographie, cinéma, sculpture, musique. Dans l'actualité des arts, l'agenda de l'Académie des Beaux-Arts. Savez-vous que l'Académie des Beaux-Arts prend position dans le débat d'idées ? La distribution de prix sur concours ou de prix au mérite n'est pas en effet sa seule mission. L'émission Sur le pont des arts vous propose de mieux connaître la vie de l'Académie et ses différentes activités. En ce mois de janvier, revenons sur l'implication de l'Académie dans les débats en cours à propos de l'art et de la défense du patrimoine. Le destin de l'hôtel de la Marine, ces derniers temps, a fait couler beaucoup d'encre et suscite l'intérêt des défenseurs du patrimoine et de l'histoire de France. L'État français a décidé, en novembre 2010, de vendre l'hôtel de la Marine, classé monument historique, connu pour son péristyle et sa colonnade en façade. Le bâtiment fut construit sur ordre de Louis XV pour abriter le garde-meuble de la couronne. Il appartient à la catégorie incontestée des lieux de mémoire. Pillé en 1789 pendant la Révolution française, la même année, le secrétariat d'État à la Marine s'y installa. La vente de l'emblématique quadrilatère, restaurée en 2009 par l'État, aux côtés de l'hôtel de Crillon qui borde la place de la Concorde, a provoqué un tollé général. L'État a donc opté pour une location entre 60 et 80 ans qui n'a pas suffi à calmer la polémique. Faut-il à tout prix vendre des pièces maîtresses du patrimoine français pour alléger le budget de l'État ? Cette privation annoncée a révélé au grand public le projet parmi d'autres de l'entrepreneur Alexandre Allard qui défend une vision commerciale du patrimoine contre l'idée d'un patrimoine sous cloche. Depuis 2 ans, il travaille à faire de ce lieu un rassemblement des différentes formes d'expression des arts plastiques, expositions, événements marchands, galeries, fondations, pour imposer Paris comme un acteur incontournable du marché de l'art. Pour cela, il a fait appel à 2 ou 3 personnes, dont l'architecte Jean Nouvel, pour créer à cette adresse prestigieuse une vitrine de la production des métiers d'art liés au mobilier d'État à la hauteur de l'excellence de leur savoir-faire. Pour l'heure, l'état-major de la Marine nationale y a ses quartiers jusqu'en 2014, année à partir de laquelle elle rejoindra le 15e arrondissement du côté de la Porte de Sèvres sur un futur site. Plusieurs appels pour la sauvegarde de ce fleuron d'histoire nationale ont été lancés. Des historiens ont rappelé qu'y fut rédigé le décret d'abolition de l'esclavage en 1848. Certains aimeraient y voir installé un musée. Le débat s'est ouvert également sur une occupation mixte possible entre le privé et l'État. Le président de la République a annoncé, mercredi 19 janvier, la mise en place d'une commission composée de gens indépendants afin de déterminer quelle est la meilleure utilisation de l'hôtel de la Marine. La décision finale est reportée à juillet 2011. Le 20 janvier dernier, au lendemain, l'Académie des Beaux-Arts faisait paraître le communiqué suivant. L'Académie des Beaux-Arts s'inquiète du devenir de l'hôtel de la Marine après le départ de l'état-major de la Marine prévu à la fin de l'année 2014. Les membres de l'Académie et en particulier la section d'architecture s'interrogent profondément sur l'avenir de ce bâtiment historique, fleuron d'une architecture urbaine exceptionnelle. L'Académie des Beaux-Arts souhaite s'associer à toute réflexion indépendante qui conduira à une solution noble et respectueuse pour cet édifice emblématique de l'histoire de la nation. Si l'Académie des Beaux-Arts rend des avis et prend position dans le débat public, elle débat également en interne de questions sur l'art. Organisés sous forme de groupes de réflexion, les académiciens se réunissent en dehors de leurs séances hebdomadaires sur des thématiques qui interrogent de façon majeure les arts dans la société d'aujourd'hui. Cette année, comme nous l'explique l'académicien François-Bernard Michel avec quelques confrères compositeurs, sculpteurs, graveurs, il s'interroge sur une définition de l'art actuel. François-Bernard Michel, merci d'être venu à Canal Académie pour nous présenter les débats que vous animez et dont vous êtes l'initiateur à l'Académie des Beaux-Arts. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Je précise juste que vous avez été élu en 2000 par vos confrères à l'Académie qui vous ont reçu donc sous la coupole.
Dans la section des membres libres.
Dans la section des membres libres. Vous êtes médecin, poète, écrivain, amateur d'art. Et pour cette raison, vous avez été élu parmi vos confrères. Quand vous êtes arrivé à l'Académie, vous m'avez expliqué que vous aviez pour projet de relancer le dictionnaire de l'Académie des Beaux-Arts, qui a été une tradition.
Oui, absolument.
Vous pouvez nous dire deux mots de ce projet que vous aviez, qui était un projet très ambitieux, avant de vous lancer dans les débats à l'Académie, qui est quand même une idée neuve et dynamique à laquelle on ne pense pas forcément quand on pense à l'Académie.
Oui, il y avait peut-être du mimétisme par rapport au dictionnaire de la française.
Oui.
Il y avait un bon départ puisque nos prédécesseurs dans les années 30 avaient bien avancé ce dictionnaire, il avait été publié, etc., puis il a été interrompu. Mais très vite, il est apparu qu'aujourd'hui, c'était absolument une utopie que de vouloir faire un dictionnaire des arts, car les choses aujourd'hui ne sont plus définissables. Et de notre côté, il m'a semblé que l'une des missions, si on peut parler ainsi, d'une académie de l'Institut de France, c'était quand même de se manifester par un travail et une réflexion. Alors là, on aborde une difficulté qui est très difficile à contourner, c'est que l'Académie des Beaux-Arts ne peut pas s'ériger en juge des arts actuels, de ce qu'elle voit, car elle n'est pas fondée à ça, et puis elle serait très vite attendue au coin du bois, c'est-à-dire que si elle avait le malheur de porter des jugements, ou je vous laisse imaginer tous les qualificatifs qu'on pourrait attribuer à ses membres. Donc il ne s'agit pas de juger, de donner des bons ou des mauvais points, mais si l'académicien des Beaux-Arts ne s'exprime pas sur leur propre regard, alors pourquoi le ferait-il pas ? Je veux dire, autant ils n'ont pas de possibilité de juger, autant eux, artistes, peuvent regarder les autres artistes. Donc voilà, il m'a semblé que réunir les volontaires pour cette mission, leur proposer de donner leur regard sur les arts actuels, pouvait être intéressant.
Donc vous êtes un petit groupe d'académiciens ouvert à tous vos confrères, bien sûr, vient qui veut, et vous avez lancé des thématiques auprès de vos confrères. Alors vous avez eu des thématiques très intéressantes comme la transversalité des arts, mécènes et décideurs. Parlez-nous un peu de ces thématiques que vous avez initié, parce que ça fait 10 ans pratiquement que se déroulent ces débats au sein de l'Académie, dont on entend peu parler, effectivement.
Oui. Alors, la transversalité, c'est un thème d'actualité, parce que, vous le savez comme moi, aujourd'hui, les sculpteurs photographient, les photographes font de la peinture, etc. Il y a manifestement aujourd'hui une perte un peu de la spécificité. Et avec des tenants, des purs et durs de leur propre discipline, comme un graveur qui ne veut pas faire autre chose que de la gravure, et puis des gens qui estiment que les arts sont... Il existe des passerelles et les arts s'auto-instruisent, c'est-à-dire que tel sculpteur peut perfectionner, faire évoluer sa discipline avec l'architecture, etc. Alors cette idée de la transversalité a été féconde, c'est-à-dire qu'on en a vu à la fois l'intérêt de la transversalité entre plusieurs disciplines, mais aussi les limites. C'est-à-dire que, quelle que soit l'opinion qu'on peut porter sur la peinture, la gravure, etc., il est bien évident qu'aux deux côtés du talent, il y a la question du travail. Et c'est une œuvre de main qu'une œuvre d'art, et par conséquent, c'est une œuvre qui se prépare, qui s'accomplit sur des années et des années. Donc, il n'est pas du tout interdit à tel sculpteur de peindre également, inversement. Mais je crois que pour accomplir la démarche de toute une vie, il faut quand même s'inscrire dans une spécialité.
François-Bernard Michel, parmi les débats, il y a eu le dessin aussi, il y a eu mécènes et décideurs, je le disais. Et puis, en ce moment, vous êtes attaqué à un débat contemporain qui est l'art actuel, quelle définition ? Alors, pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette grande aventure du débat ? Parce que là, c'est un débat que tout le monde peut comprendre et dont je pense tout le monde aimerait connaître vos avis respectifs aux uns
et
aux autres.
Tout d'abord, mécènes et décideurs, dans notre chère Académie des Beaux-Arts, il y a de nombreux artistes, à mon avis, tous talentueux. Je ne dis pas que tous les meilleurs sont là, mais ils ont tous un talent, ils ont travaillé. Et certains connaissent une très grande notoriété médiatique, d'autres moins ou pas du tout. Et ça, c'est une question. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tel artiste a accès aux médias ou non? Qui c'est qui bénéficie des mécènes et, ou qui n'en bénéficie pas? Et aussi, quels sont les décideurs? C'est-à-dire, qui c'est qui décide que telle œuvre aura accès à des expositions, à des musées nationaux? Alors, c'est une grave question.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, on est bien obligé de constater que les décideurs institutionnels ont des préférences qui sont parfois injustifiées, que les mécènes s'attachent préférentiellement à certaines œuvres qui n'ont pas toujours tous les critères que peut réclamer un art académique, car académie, ça a une connotation aujourd'hui un peu de figé, pour voir de fossilisé. Or, c'est pas ça du tout, l'académisme, c'est aussi la rigueur. Alors, on a constaté donc à propos de l'art actuel que de plus en plus, la glose prend le pas sur l'œuvre, c'est-à-dire on parle sur, que l'auteur, de plus en plus, est devenu plus important que l'œuvre. Or, vous savez que jusqu'au 7e siècle avant Jésus-Christ, on ignorait complètement l'auteur. Le Parthénon n'avait pas de signataire. Or, aujourd'hui, c'est la tendance totalement inverse. On regarde qui parle plutôt que celui qui fait. Et il y a aussi un problème de vocabulaire qui manque pour parler des œuvres. À la fois, on parle beaucoup sur telle œuvre, mais en même temps, on a du mal à caractériser, à définir l'œuvre actuelle d'un musicien, d'un peintre, etc. Si bien que notre confrère François-Bernard Mache arrive à dire que ce que je crée, ce que j'écris dans musique n'a pas de nom et le ministère ne me connaît pas puisqu'il ne peut pas me nommer.
Voilà, donc un mot d'esprit pour expliquer une dure réalité quand même.
Oui, et puis aussi l'art conceptuel qui a pris une importance un peu démesurée depuis évidemment le fameux urinoir de Duchamp. Cette conceptualisation du banal, de l'ordinaire, n'est pas du tout critiquable, mais elle tend quand même à estomper la réalisation d'autres œuvres. Et on peut évoquer cette fameuse affaire Pinoncelli, ce monsieur qui a rendu à l'urinoir de Duchamp sa vocation, puis qui l'a cassé. Et le tribunal a été qui a jugé de l'affaire et qui a eu à scruter si vraiment il fallait donner de la prison et des sommes d'indemnisation énormes à ce monsieur qui avait cassé l'urinoir, a été très sage parce qu'il a dit, écoutez, un urinoir chez un fabricant, ça vaut dans les 300 euros. Donc ce monsieur n'a fait que rendre son usage à une fabrication de 300 euros. Et puisque c'est conceptualise matériel, il n'y a pas de raison de ne pas aller jusqu'au bout.
Donc sur ces débats et sur ce débat actuel, sur l'art actuel en ce moment à l'Académie, vous êtes un petit groupe à la fois de compositeurs, vous venez de citer François-Bernard Mache, mais il y a aussi le sculpteur Claude Abeille ou bien le sculpteur aussi Brigitte Terzieff, Lydia Arambourg qui est historienne de l'art, Caroline Lee aussi, Éric Desmazières. Donc vous avez avec vous un groupe solide qui permet de confronter tous les regards. Et comment vous rendez compte de ces débats? Est-ce que vous avez des relais? Comment le public peut être informé de ces débats?
Alors pour le moment, il est très peu ou très mal informé, car il y a le problème là aussi de la médiatisation. En principe, la lettre de l'Académie des Beaux-Arts ou bien des publications spéciales rendent compte de nos débats. Je dirais que c'est important, évidemment, et que notre souhait est que le contenu de ces débats soit diffusé, mais ce n'est sûrement pas le plus important. Le plus important, c'est que ces artistes ont été heureux de se retrouver entre eux dans un espace d'expression et de réflexion qui leur permet en fait d'échanger leurs avis sur leur propre création et réfléchir aussi à leur créativité. Donc je crois que ces débats ont trouvé désormais leur justification dans la fidélité des participants.
François-Bernard Michel, merci d'être venu. On vous invite à Canal Académie à venir parler du fruit de ces débats pour en savoir plus et pour nous éclairer tout simplement sur l'art d'aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci à vous, madame, et à Canal Académie.
L'Académie des Beaux-Arts abrite quelques fondations sans rapport administratif et juridique avec celle de l'Institut de France. Parmi les plus connues, citons par exemple la Fondation Claude Monet à Giverny ou le Musée Marmottan-Monet. Sur la Côte d'Azur, l'Académie s'occupe de la Fondation Effrouzie de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat, où viennent d'être restaurés, après 2 mois de travail par une équipe de 6 personnes, les 8 mètres carrés d'une peinture ovale de Tiepolo, le char de l'amour tiré par des colombes, qui est collé au plafond d'un de ses grands salons. La baronne Éphrosie de Rothschild en fit l'acquisition au milieu du XIXe siècle, la toile probablement décollée d'un plafond d'un palais vénitien, dont on ignore le nom, dans l'histoire de ses origines, s'est perdue. Il a fallu 4 ans pour réunir les fonds nécessaires à cette restauration qui donne des couleurs nouvelles à ce joyau, légué à l'Académie en 1934 et dont le palais et les jardins sont ouverts au public pratiquement chaque jour de l'année. Restons dans le domaine de la peinture et signalons pour les amateurs de palaces le 5 étoiles proche de la Madeleine à Paris, le Burgundy, dont le peintre Guy de Rougemont, peintre de l'Académie, vient de signer la décoration avec le sens qu'on lui connaît de transformer les espaces publics ou architecturaux en œuvres d'art depuis 50 ans. Il aborde l'espace comme un peintre, de la piscine au vestibule. Du côté de la gravure, signalons à Nîmes l'exposition du graveur Jean-Marie Granier, mort en 2007. Le musée des Beaux-Arts de Nîmes lui consacre une exposition jusqu'au 27 février intitulée « Bestiaire ». Mantes, libellules, abeilles, fourmis sont gravées à la pointe sèche. Une 60aine de gravures est ainsi exposée dans ce musée qui possède aussi une 30aine de dessins de ce maître au style d'acier. Ce mois-ci, sur le Pont des Arts, vous propose de découvrir le travail de Fabienne Tessier-Monod, qui a reçu le prix 2010 de sculpture de la Fondation Claude Berthaud, un prix attribué par l'Institut de France sur les propositions de l'Académie des Beaux-Arts. Elle participait à une exposition collective à Fontenay-sous-Bois du 18 au 29 janvier à la Maison du Citoyen où nous l'avons rencontrée. Fabienne Tessier-Monod a été formée aux ateliers des Beaux-Arts de la ville de Paris Glacière, en sculpture, en taille directe, dans l'atelier de Sylvie Lejeune. Et puis il y a aussi un autre sculpteur qui a compté pour elle, Ilio Signori, dont elle a suivi les cours à l'atelier du sculpteur, les ateliers de modelage. Elle a déjà exposé dans différents endroits, à Londres en particulier, à Paris aussi, en région parisienne, en province. Et puis, elle a aussi fait des créations sur commande, comme par exemple les décors pour Don Juan de Molière, dans la mise en scène par Daniel Mesguiche à l'Athénée pour le théâtre Louis Jouvet. Des expériences multiples, elle va des accessoires pour les films, au décor, à la sculpture. Je crois que le mieux, c'est de lui donner la parole. Fabienne Tessier-Monod, vous faites autre chose que de la sculpture pour laquelle on vous a récompensé?
Oui, absolument.
En plus?
Oui. En fait, je travaille au musée Guimet. Je fais un atelier de dessin. Enfin, j'anime un atelier de dessin qui s'appelle Carnet de dessin. Je travaille aussi pour un comité d'entreprise. Voilà, je donne un cours de peinture, dessin et je donne également un cours de modelage à un groupe de malvoyants, non-voyants, à Sceaux.
Avez-vous été broker sur marché
Oui.
À la Criée?
J'ai travaillé au Palais Brongniart avant.
Ouais. Avant.
Ouais. Donc j'avais 24 ans voilà. Dans ces
Donc si on l'a bien compris, Fabienne Tessier-Monod a toutes les audaces quand même hein, et tous les talents. Fabienne Tessier-Monod, comment avez-vous découvert la sculpture?
Je crois que j'ai toujours aimé la sculpture sans jamais vraiment oser en faire. J'ai travaillé dans d'autres univers, on a parlé de la bourse, j'ai travaillé aussi dans une maison de couture jusqu'au moment où j'ai vraiment pris des cours de modelage, plus la taille directe ensuite. Et là, j'ai su que c'était très très important pour moi et que j'allais poursuivre.
Qu'est-ce qui vous inspire?
Ce qui m'inspire, la nature évidemment, les gens, la vie des gens, les échanges et les instants impalpables, le mystère, le ciel.
Vous venez d'évoquer la taille directe et le modelage. Préférez-vous la taille directe, le modelage? Vous pratiquez ensemble? Comment vous faites?
Quand j'ai commencé la taille directe, j'ai complètement arrêté le modelage pendant plusieurs années. J'en refais un petit peu, mais je préfère la taille directe de loin parce que c'est une matière qui a du répondant.
Voilà, vous avez besoin de ça?
Oui, j'ai besoin de ça, oui.
Et vous taillez tous les matériaux?
Je taille le bois, différentes essences de bois, je taille la pierre. Je travaille aussi avec d'autres matériaux, parce que bon, la pierre, c'est un peu difficile à manipuler seule. Et puis, j'en ai pas toujours en stock. Ou parfois, les pierres sont trop belles, donc je n'arrive pas à commencer une sculpture dans ce que j'ai. Ce qui m'a amené à travailler avec d'autres matériaux, des lianes, de clématites sauvages, des bouts de tissu.
Du polystyrène ?
Ça, le polystyrène, c'est pas vraiment quelque chose que j'aime bien. Je m'en suis servie pour une de mes dernières sculptures, mais il n'y a pas dans le polystyrène la noblesse qu'on peut trouver dans le bois ou la pierre.
Qui sont vos matériaux préférés ?
Oui. Et les tissus, j'aime bien les tissus. Parce que les tissus, on peut imaginer des tressages avec et rentrer dans l'univers de la taille de la même façon. Oui.
Alors, qu'est-ce que la sculpture vous apprend ?
La sculpture m'apprend à être tenace, à lâcher prise, tout en étant dans une... Puisque qui dit ténacité, ça veut dire une certaine maîtrise aussi de soi. Elle m'apprend à être curieuse, en toujours plus, à aller vers la découverte.
Dans le catalogue d'une de vos expositions, qui s'intitulait « Dehors, dedans », qui s'est déroulée au Lila en octobre 2009, vous écrivez « Je décompose pour chercher la fibre ». Alors, qu'est-ce que c'est pour vous cette fibre? Qu'est-ce que ça représente?
Alors, cette fibre, bon, littéralement, quand je travaille avec des tissus, je les mets en lanière pour pouvoir retisser ensuite. Et je trouve que aller tailler une pierre ou tailler un bois, c'est aussi aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pour, quand je dis chercher la fibre, c'est pour rentrer au cœur de la matière, pour essayer de comprendre quel est son mode de fonctionnement, quel genre de réseau il est possible de trouver en son sein. Et à partir de là, je m'adapte et j'essaye d'en faire autre chose, de le transformer. Oui.
Vous pourriez nous décrire une de vos sculptures? L'autre jour, étaient exposées plusieurs de vos pièces à Fontenay-sous-Bois, la maison du citoyen, pendant 15 jours. Il y avait une magnifique sculpture sur bois avec des nœuds, d'ailleurs, un cordage qui s'appelait le capteur de nuages. Il y avait une magnifique sculpture suspendue cette fois en clématite. Et justement, vous veniez d'évoquer le tissage que vous avez retissé. Et puis, il y en a une autre qui s'appelle Nébuleuse. Est-ce que vous pourriez nous parler de Nébuleuse, par exemple?
Oui, alors Nébuleuse, c'est justement une sculpture réalisée à partir de lianes de clématite sauvage qui viennent de mon jardin ou du petit parc près de chez moi. J'étais fascinée par la clématite sauvage parce qu'elle pousse très haut dans les arbres et envahit la végétation. On ne la voit pas forcément quand elle est toute fraîche, toute verte. Mais en fait, ces lianes sont très solides. Et pour essayer de couper une liane, on tire et on se rend compte qu'on peut faire remuer la cime de l'arbre. J'ai trouvé ça absolument fascinant. Quand j'ai essayé de voir comment étaient reliées ces lianes, j'ai découvert un réseau infernal. Alors, tout le monde veut se débarrasser de la clématite sauvage. Moi, je me suis dit que j'allais essayer d'en faire quelque chose. Donc, je travaille avec des lianes fraîchement coupées que je tresse sur un principe de vannerie, hein, comme pour faire des paniers. Je fais plein de petits débuts de paniers que j'assemble ensuite pour recréer un espèce de nid, un réceptacle, un lieu habitable, un peu protecteur, mais il y a toujours des ouvertures, des possibilités de circuler. Donc, elle ressemble un peu à une grosse boule de liane. J'ai choisi de la poser sur un socle avec des bouts de figuier que j'ai sculptés parce que je la voulais non pas suspendue, non pas au sol, mais juste un peu décollée comme un petit habitacle qui serait venu s'installer là ou comme un champignon d'arbre. Chose comme ça.
Et le récepteur de nuages, dans un registre complètement différent, n'a rien à voir. Et l'autre sculpture suspendue, tropisme non plus.
Oui, en même temps, il y a un lien à chaque fois parce que je cherche, comme vous le disiez, pour le capteur de nuages, il y a le cordage. Donc, on est dans le fil. Pour tropisme, on est aussi dans ces tissus qui sont mis réduits à l'état de fil pour pouvoir mieux les tresser. Pareil dans la clématite. Comme si je voulais chercher une vibration propre à chaque élément pour pouvoir générer un nouveau monde à chaque fois. Alors, les mondes sont complètement différents, mais le point de départ reste un peu le même. Je suis probablement dans un même état d'esprit au départ, oui.
Merci. Pour finir l'émission, la presse magazine et les revues d'art sont nombreuses. Sur le Pont des Arts a rencontré Pascal Hamel, directeur et fondateur de la revue Art Absolument, qui tente de conjuguer le présent et l'avenir dans les arts. La revue Art Absolument est dédiée à l'art d'hier et d'aujourd'hui, créée en 2002, diffusée à 20 000 exemplaires. Depuis 2 ans, forte de son succès, elle a opté pour une formule bimensuelle, toujours au service des artistes contemporains vivant en France, avec l'idée de créer des ponts entre les grands artistes du passé ou bien entre le patrimoine esthétique des civilisations et ces artistes d'aujourd'hui. Avec nous à Canal Académie aujourd'hui, Pascal Hamel, directeur de la rédaction d'Art Absolument et fondateur de la revue, pour présenter son point de vue sur l'actualité artistique et son relais dans la presse française. Bonjour Pascal Hamel.
Bien, bonjour Marianne.
Quel est le concept de la revue Art Absolument ?
Concept central, c'est l'œuvre. C'est-à-dire que j'ai toujours été un passionné d'art et c'est d'abord par la perception des œuvres que cette passion m'est venue. Donc, peut-être insatisfait de ce qui, jusqu'à aujourd'hui, ou plutôt l'espèce, si vous voulez, de culture zapping, que le bon qui a le droit de citer, c'est le moins qu'on puisse dire, j'ai eu envie de créer une revue qui mette l'œuvre au centre de celle-ci.
L'œuvre au centre. Mais ce n'est pas une revue non plus de théoriciens de l'art. À qui s'adresse-t-elle ?
En fait, c'est une revue qui, mettant l'œuvre au centre, suppose des regards passionnés et des plumes passionnées. Donc, elle est ouverte à la fois à des théoriciens de l'art, des critiques d'art, des paroles d'artistes, des écrivains.
C'est un public cultivé, un public qui est quand même aussi grand public. Mais en même temps, on y trouve un point de vue original sur l'art, une position à défendre.
Alors, c'est quand même pour un public cultivé, il faut l'admettre. Pas spécialisé, pas spécialiste, mais tout de même. Ceux qui vont aux expositions, au Grand Palais, ou au Centre Georges Pompidou, ou au Musée Guimet.
Mais c'est une revue tout à fait accessible qui met quand même l'accent sur la qualité. Vous parliez de l'œuvre au centre, mais on y voit les œuvres aussi. Et là, il y a un bel effort sur la qualité des images et la revue papier est quand même de belle facture, j'allais dire.
Bah, vous avez raison.
Elle aide le regard à être capté.
Bien sûr. À partir du moment où vous mettez l'œuvre au centre, vous êtes obligé de faire un certain nombre de propositions. Au niveau de la mise en page, doit être belle, les œuvres doivent être bien reproduites. Je ne suis pas un fanatique de la fragmentation ou du détail, par exemple. Je préfère que l'on voit l'œuvre dans sa globalité.
Est-ce que Art Absolument a vocation ou a pour ambition d'être au cœur d'un débat ou du débat ou de prendre part au débat de l'art contemporain d'aujourd'hui ?
C'est une revue engagée.
C'est une revue engagée. D'accord.
C'est une revue engagée, si vous voulez, d'un point de vue esthétique et je dirais éthique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous considérez que l'œuvre d'art est l'un des sommets, disons, de ce que peuvent produire les êtres humains, vous vous rendez compte rapidement d'une chose. C'est que d'une part, les œuvres d'art, bien sûr, on le sait, depuis André Malraux d'ailleurs, qui a quand même ouvert, je dirais, les yeux à ses contemporains sur les autres arts, sur les rapports entre l'art du passé et du présent. Vous vous rendez compte tout à coup que, bien entendu, les grandes œuvres sont par définition universelles. Cela suppose donc un rapport à l'autre, aux autres nations, aux autres civilisations. Vous avez bien fait de préciser que c'est à la fois lié au maître du passé, mais aussi aux autres civilisations. Vous vous rendez compte donc qu'à travers la spécificité ou la singularité, soit de civilisation, soit d'individu, il y a évidemment un socle commun. Et ce socle commun, c'est que de toute évidence, aussi singulier soit-elle une œuvre d'art produite par une civilisation donnée ou par un individu donné, si elle est suffisamment profonde, elle rejoint quelque chose de l'universel humain. Enfin, j'ai décidé assez rapidement de faire quelque chose sur, pour ce qui concerne l'art contemporain, sur les artistes en France. Bon, moi, c'est très important. C'est-à-dire qu'on distingue tout de suite une chose, artiste en France. Pourquoi pas artiste français ? Pour moi, justement, la place, je pense d'abord que la France s'est constituée d'une diversité. Historiquement, c'est une évidence. Elle s'est constituée de plusieurs peuples. Elle s'est nourrie de plusieurs sources. C'est ce qui fait sa force et sa singularité. Et ici, aujourd'hui, à Paris, exactement comme dans l'entre-deux-guerres, nous avons peut-être, si vous voulez, c'est difficilement quantifiable, mais c'est pratiquement la moitié des artistes qui comptent, vivent ou résident en grande partie en France. Et donc, j'ai décidé de montrer ça. Parce qu'on l'ignore souvent, mais les artistes comme Barcello, comme Kiefer, comme Yann Penmin, comme Barthélémy Togo, enfin je pourrais vous en citer une centaine, des artistes très très intéressants vivent ici. Et donc j'ai décidé d'abord de montrer qu'il y avait une continuité dans la réalité entre, disons, l'entre-deux-guerres, où, comme tout le monde le sait, on avait à la fois Picasso, Man Ray, Brancusi,
et bien sûr
Matisse,
qui étaient là.
Léger, etc.
Ah, Picasso promenait son chien là, sur le quai de la Seine.
C'est notre spécificité. C'est l'attrait, si vous voulez, de Paris. Et j'ai absolument tenu à ce que l'on dépasse ces problématiques nationales, si vous voulez, ça veut un peu rien dire, artiste français, etc., etc. Mais, par contre, de montrer que dans une ville donnée, dans une ville-monde donnée, dans un pays donné, à un moment donné, vous avez un nombre très très important d'artistes qui vivent, qui y résident.
C'est ce et des artistes majeurs et artistes reconnus majeurs sur le plan international. Ce qui ne vous empêche pas de donner, j'imagine, aussi la parole, j'allais dire, mais de vous intéresser à des musées qui sont hors de Paris, de cette ville
oui,
dont
non,
vous parlez.
Je dis, bon,
quand on dit ça, soyons oui, précis jusqu'au bout.
Bien sûr, ils peuvent vivre à Marseille. Voilà. On doit quand même reconnaître que l'attrait de Paris est très important. C'est ça, que... ça fait partie aussi de la tradition française. Mais bien sûr, les musées, on fait Bordeaux, Nantes, enfin, je dirais même qu'il y a une indépendance peut-être plus grande par rapport à Paris ou aux modes, et que donc les musées de province ou certaines galeries choisissent de manière plus subjective, moins... Parce qu'il faut quand même le dire, on est quand même sous une espèce de pensée unique, y compris dans l'art. On nous parle un peu toujours des mêmes. C'est quand même une spécialité qui, malheureusement, c'est un peu une spécificité, si vous voulez. Il y a comme ça, on nous ressasse quand même toujours les mêmes noms, etc., etc. Et ça caricature, finalement, la réalité vivante de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui se crée aujourd'hui.
Alors, le public qui ne connaîtrait pas Art Absolument peut trouver quoi, par exemple? Quel type de parcours, quel type d'exposition vous couvrez
d'accord,
en
alors,
ce moment
disons,
dans
bien
le numéro
sûr. Alors, disons que,
pour répondre à ces
oui,
valeurs-là?
Alors, d'une part,
pour les illustrer.
Ce que je dirais, c'est que d'une part, on fait un tri sélectif sur ce qui se passe dans l'actualité. C'est-à-dire oui, qu'on a la chance d'être en France et ailleurs, bien sûr, mais à Paris, en France, on a la chance d'avoir beaucoup d'expositions très, très intéressantes qui se passent. J'essaye de prendre, de choisir celles qui me paraissent les plus importantes, les plus intéressantes, les plus signifiantes. D'autre part, à chaque fois que je choisis un artiste, je le prends par rapport à son œuvre. Parfois, je ne le connais pas, et d'ailleurs, ça leur fait très plaisir, parce que quand vous contactez des artistes à cause de leurs œuvres, et pas parce que ce sont les amis d'amis, pour eux, c'est finalement une reconnaissance la plus importante.
Bien sûr.
Et je donne à chaque fois, contrairement effectivement à d'autres magazines, à chaque fois, on consacre un dossier de 8 pages, minimum 8 pages pour un artiste, minimum 8 pages pour une grande exposition.
Quel que soit l'artiste, connu ou pas.
Connu ou pas. Et je dirais, quelle que soit son origine aussi, quel que soit son médium, c'est important. Il y a à la fois la peinture, le dessin, la sculpture, mais aussi la photographie, la vidéo, l'installation. On y reviendra sans doute, parce qu'il y a tout et n'importe quoi, effectivement.
Bien sûr.
Mais il y a aussi des choses absolument extraordinaires. Une des ambitions, si vous voulez, de la revue, c'est de montrer qu'il y a des choses extraordinaires dans l'art contemporain et qu'il faut faire le tri. En fait, elle est très ambitieuse, cette revue, et peut-être même un peu mégalomaniaque. Parce qu'on essaye d'historiciser le présent. C'est-à-dire de montrer qu'ici et maintenant, dans la création contemporaine, il y a des choses qui vont perdurer.
Vous balisez, en fait, sur le long terme, avec du recul, l'actualité contemporaine, effectivement, des arts dans lesquels l'amateur d'art peut tout à fait se perdre ou bien être réfractaire. Pour beaucoup de personnes, l'art contemporain, c'est de l'art conceptuel. Il y a beaucoup de préjugés, etc. Comment faites-vous pour les faire tomber? Ou quel art d'aujourd'hui, présentez-vous? Vous parliez d'œuvres. Est-ce que vous pourriez prendre un exemple ou...
Bien sûr. Alors, si vous voulez, là-dessus, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, la complexité de l'art, c'est que, quel que soit finalement l'engagement de l'artiste, sa méthode, son mouvement, son inspiration, il peut être conceptuel, par exemple. Et il peut être très, très mauvais. Il peut être abstrait et être très, très mauvais. Mais l'inverse aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans l'art, c'est moins le mouvement ou moins le médium ou moins ce qu'a décidé de faire l'artiste, que la qualité de l'œuvre. C'est pour ça qu'on repart sur l'œuvre. Et pour moi, si vous voulez, le plus important, l'essentiel, ce sont les effets que produisent les œuvres. On peut trouver des œuvres conceptuelles qui ont des effets puissants. Ce qui est vrai, et vous avez raison de le souligner, il y a un effet de mode sur l'art conceptuel, surtout d'ailleurs dans l'Hexagone, parce que bon, dès que vous dépassez les frontières, on pourrait revenir dessus d'ailleurs, dès que vous dépassez les frontières, bon, bah, il y a effectivement tous les médiums possibles. Et sur le conceptuel, si vous voulez, qu'on critique beaucoup, et à juste titre, je fais tout de suite une réserve. C'est que pour moi, une grande œuvre d'art est forcément conceptuelle. C'est très difficile d'imaginer un grand artiste, je pense à un grand peintre, prenons, je ne sais pas moi, enfin déjà Léonard de Vinci, après tout, Cosa Mentale, l'œuvre. C'est très difficile d'imaginer un artiste qui ne pense pas. Alors après, évidemment, dans l'art conceptuel, il y a un énorme problème, c'est qu'on imagine que la pensée peut remplacer le faire. ce qui est absolument impossible. C'est justement le rapport entre la pensée et la main, ou la pensée et le regard, ou la pensée et l'outil que vous allez utiliser, l'outil photographique, l'outil... Mais ce sont des outils. L'important, c'est évidemment la conjonction de la pensée et les organes sensibles. Mais après tout, c'est une lapalissade, c'est ça l'art.
Donc pour être un peu moins aveugle ou pour voir un peu plus loin, j'invite nos auditeurs à découvrir, à acheter, à se procurer la revue Art Absolument disponible en kiosque et qu'on peut aussi se procurer sur le site internet de la revue qui est un site aussi autonome. Et nous avons développé des liens aussi avec Art Absolument et Canal Academy. Merci Pascal Hamel.
Ben c'est moi qui vous remercie.
Merci de votre attention et retrouvez sur le Pont des Arts en février où le dessin et la gravure seront à l'honneur.